Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie.
Bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui.
Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui dépasse vraiment les simples débats de couloir. C'est un sujet qui touche véritablement à l'avenir de toute une génération.
Tout à fait, on parle ici de la base même de la société.
Exactement. Notre plongée au cœur de l'actu se base sur un dossier extrêmement dense, issu du magazine marocain LOGI Week. C'est le numéro 118 de février 2026.
Oui, un dossier central qui est consacré aux rencontres régionaux de l'AEI qui se sont tenues à Casablanca.
L'Alliance des économistes istiklaliens. Pour remettre un peu de contexte pour ceux qui nous écoutent, l'AEI rassemble des experts et des économistes affiliés au parti de l'Istiklal.
C'est ça. Et leur rôle, selon le rapport, c'est d'apporter une véritable caution analytique et chiffrée à la stratégie politique du parti.
Et la mission de notre exploration aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre un paradoxe assez fascinant.
Le fameux paradoxe du financement éducatif.
Voilà. Comment un système éducatif qui bénéficie d'investissements financiers colossaux peut-il peiner à produire les résultats et se compter sur le terrain?
C'est la grande question soulevée par ces rencontres.
Et surtout, on va décortiquer les mécaniques du fameux plan d'action 2026-2035 qui est proposé pour restaurer la confiance de la jeunesse. Bon, décortiquons ça.
C'est un point de départ essentiel. Le dossier installe d'emblée un climat d'analyse très posé. Il affirme que l'éducation ne peut plus être perçue uniquement comme une question de ligne budgétaire.
Ou de simples horaires scolaires.
Absolument. Selon les intervenants cités, c'est le cœur battant du pacte social. Le postulat est clair, construire une nation ou lancer des méga-projets économiques, ça ne sert pas à grand-chose si le système éducatif n'est pas capable de susciter la confiance.
Donc l'enjeu mis en avant par l'AEI n'est plus simplement d'empiler des réformes techniques.
Non, il s'agit de colmater une brèche, de rétablir un lien de crédibilité qui s'est rompu entre la jeunesse et les institutions.
Et justement, pour mesurer la profondeur de cette brèche, les chiffres rapportés par le magazine sont assez vertigineux. J'ai vu passer des statistiques impressionnantes.
Oui, l'effort financier est massif.
À quel point c'est massif par rapport au blocage sur le terrain?
Eh bien, le rapport indique que le Maroc investit plus de 6,5% de son produit intérieur brut dans l'éducation.
6,5%, c'est...
Concrètement, on parle d'un budget qui frôle les 100 milliards de dirhams.
100 milliards, c'est énorme.
Pour donner un point de comparaison mentionné dans les textes, ce pourcentage est supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE.
L'Organisation de coopération et de développement économique, donc les pays les plus développés.
C'est ça, donc... Sur le papier, l'État met véritablement la main à la poche, la machine est alimentée.
C'est là que ça devient complètement contre-intuitif. Si on injecte plus de moyens que la moyenne des pays riches, pourquoi est-ce que ça coince autant à la sortie?
C'est tout le paradoxe.
Parce que j'ai lu dans les sources que le taux de chômage atteint 37,2% chez les jeunes de 15 à 24 ans.
Oui, et 19,1% chez les diplômés.
C'est fou. C'est comme si on mesurait le succès d'une mission spatiale uniquement à la quantité de carburant qu'on met dans la fusée, en fait.
Sans jamais vérifier si elle a réussi à atteindre l'orbite?
C'est exactement ça.
Comment les économistes de l'Alliance expliquent-ils ce crash?
Le dossier s'appuie sur l'analyse du professeur universitaire Hamid Bouchiki. Son argument central est que le problème majeur n'est absolument pas un manque de ressources financières.
Le problème serait ailleurs, du coup?
Le véritable goulet d'étranglement se situe au niveau du pilotage stratégique et de la gouvernance. L'analyse soutient que malgré ces 100 milliards, le système navigue à vue.
Il manque de clarté dans ses objectifs à long terme.
Oui, et surtout de mécanismes d'évaluation rigoureux. L'idée défendue par le professeur Bouchiki, c'est qu'il faut opérer une vraie mutation culturelle. Passer d'une logique de moyens à une logique de résultats.
Absolument. Au lieu de se féliciter simplement de l'argent dépensé, il faut évaluer ce qui est produit. Cela impliquerait de donner une autonomie beaucoup plus large aux établissements scolaires eux-mêmes.
Pour que les décisions se prennent au plus près des élèves, plutôt que dans des bureaux centralisés à Rabat.
Exactement.
Et quand on s'éloigne justement des bureaux centralisés pour regarder les élèves, le magazine emploie une expression qui m'a vraiment interpellé.
La bombe sociale silencieuse.
Oui, en référence au décrochage scolaire. Les sources indiquent que 280 000 élèves quittent le système sans qualification chaque année.
C'est une hémorragie totale.
C'est dramatique. Et ce qui est encore plus alarmant, c'est que 60% de ces abandons ont lieu dès le collège. Qu'est-ce qui se passe concrètement à ce stade charnière?
Le collège est décrit par les intervenants comme le point de rupture par excellence. Et les conséquences de cette rupture nous amènent à un concept détaillé dans le dossier. Les jeunes NEET.
C'est un acronyme anglais, n'est-ce pas?
Oui, Not in Education, Employment or Training. En gros, ce sont des jeunes qui ont complètement disparu des radars institutionnels. Ils ne sont ni à l'école, ni au travail, ni en formation.
Et le rapport estime leur nombre à près de 1,5 million au Maroc, uniquement pour la tranche des 15-24 ans.
Ce que les économistes soulèvent ici, c'est la réalité brutale derrière cette statistique. On parle d'une perte de dignité, d'un sentiment d'inutilité sociale et surtout d'une fracture territoriale béante.
Parce que près d'un tiers de ces jeunes vivent en milieu rural.
C'est ça. Le magazine donne un chiffre pipivistre parfaitement cette ségrégation géographique. La moyenne des années de scolarité est de 7,9 ans en ville.
Contre à peine 3,2 ans à la campagne.
Voilà. L'école se transforme alors en ce que le dossier nomme un sas de sortie sans destination.
Un sas de sortie sans destination, c'est glaçant comme image.
Oui, c'est très fort.
On imagine un jeune qui franchit les portes de son collège pour la dernière fois et qui se retrouve face à un vide absolu. Mais au-delà du constat clinique, comment le plan d'action de l'AUI compte-t-il désamorcer cette bombe ?
Parce qu'il ne suffit pas de dire aux jeunes de rester à l'école pour que ça fonctionne.
Bien sûr que non.
Le rapport avance des pistes très spécifiques pour attaquer le problème à la racine. L'urgence, soulignée, repose sur l'idée qu'il faut agir avant la rupture.
Et comment on fait ça ?
La première piste est de repenser l'orientation scolaire très tôt. Au lieu de laisser l'orientation se faire par défaut, souvent vécue comme une punition vers des filières non désirées, l'idée est d'intégrer des conseillers dédiés dès les premières années du collège.
D'accord. Et la deuxième piste ?
Elle est assez novatrice. C'est l'intégration d'un accompagnement psychologique systématique.
Ah oui, l'argument de l'AERI étant que le décrochage n'est pas qu'une question de mauvaises notes en mathématiques.
Exactement. C'est souvent le résultat d'un processus émotionnel complexe, de pression familiale ou d'une aliénation sociale.
Donc ignorer cet aspect psychologique reviendrait à traiter une fracture verte avec un simple pansement.
C'est tout à fait l'idée.
Et ça résonne particulièrement avec l'idée d'équité défendue par le secrétaire général du parti de l'Istiklal, Nizar Baraka. Il parle beaucoup du mythe et de la promesse de l'école à une seule vitesse.
Oui, l'argument avancé est qu'une école publique qui fonctionne à deux, voire trois vitesses, détruit d'emblée l'idée même de pacte social.
Mais entre la théorie et la pratique, est-ce que le rapport montre des signaux positifs ?
Pour être parfaitement objectif vis-à-vis des sources, le magazine prend le temps de lister des avancées concrètes. Le taux de préscolarisation, par exemple, est un indicateur clé.
Parce que les inégalités cognitives et sociales se creusent dès l'âge de 4 ou 5 ans.
Voilà. Ce taux est passé de 72% à plus de 83% récemment, avec un objectif affiché d'atteindre les 100%.
C'est une belle progression.
Pionnière, qui touche aujourd'hui près de 2 millions d'élèves.
En introduisant de nouvelles méthodes d'apprentissage.
C'est ça. Et enfin, sur le plan administratif, la mise en place du statut unifié des enseignants en 2024 est présentée comme une étape structurante pour stabiliser la profession.
Ce sont des jalons importants, indéniablement, mais je me fais l'avocat du diable un instant. On ne peut pas décréter l'équité par une simple loi.
Ce qui est fascinant ici, c'est que l'analyse reconnaît elle-même ses limites.
Parce qu'un élève dans un village enclavé de l'Atlas ne vit pas la même réalité qu'un élève dans le centre de Rabat, même s'ils ont le même manuel scolaire.
L'objection est soulevée dans les débats même du rapport. L'équité dépend en grande partie de facteurs externes à la salle de classe.
On parle d'infrastructures basiques, j'imagine.
Oui, le transport scolaire pour éviter des kilomètres de marche au quotidien, la création d'internats de qualité, l'accès au numérique. L'école ne peut pas, à elle seule, corriger les injustices de la géographie.
C'est évident.
Mais il y a un autre point fondamental soulevé par les économistes, c'est la gestion des ressources humaines.
C'est-à-dire ?
Imaginons un jeune professeur de 24 ans, originaire de Casablanca, à qui l'on annonce sa première affectation dans un village reculé à 400 km de chez lui, avec un minimum d'infrastructures.
L'attractivité de ces postes est extrêmement faible.
Pour contrer cela, les propositions incluent la création de primes territoriales significatives.
Pour récompenser financièrement les enseignants qui s'engagent dans ces zones déficitaires.
Et par des parcours de carrière accélérés. L'idée est que l'affectation rurale ne soit plus perçue comme une sanction, mais comme un tremplin valorisé.
C'est une approche très pragmatique. Mais glissons un instant vers ceux qui grandissent, les jeunes adultes. La filière classique de l'enseignement général n'est pas faite pour tout le monde.
Non. Et c'est là qu'intervient la formation professionnelle.
Historiquement, on ne va pas se mentir, c'était souvent perçu comme la voie de garage. Le plan B pour ceux qui rataient le coche au lycée. Or, le dossier évoque un concept qui semble vouloir renverser la table. Le droit à la capacité. De quoi parle-t-on exactement ?
C'est un changement de paradigme complet. La vision défendue par le plan 2026-2035 est de sortir de la dictature du diplôme académique classique.
Pour aller vers quoi ?
Pour entrer dans une logique de compétence pure, le droit à la capacité stipule que chaque jeune, avant d'atteindre l'âge de 25 ans, devrait maîtriser une compétence technique de niveau mondial.
Une compétence capable de produire une véritable valeur sur le marché.
Exactement. Et pour matérialiser cette ambition, le rapport insiste sur le rôle des cités des métiers et des compétences, les fameuses CMC.
Ces cités ne sont plus envisagées comme de simples écoles initiales, mais comme des hubs territoriaux d'apprentissage continu.
Oui, l'apprentissage tout au long de la vie.
C'est un terme qu'on entend souvent, mais comment ça se traduit pour quelqu'un qui est déjà dans la vie active ou même dans le secteur informel ?
Le mécanisme clé mentionné ici est la VAE, la validation des acquis de l'expérience.
Comment ça fonctionne concrètement ?
Prenons un exemple pour bien comprendre. Imaginez un mécanicien qui travaille depuis 10 ans dans un garage de quartier. Il n'a aucun diplôme officiel, mais il est capable de démonter et remonter un moteur moderne les yeux fermés.
Historiquement, le système l'ignore complètement.
Avec une VAE fonctionnelle, ce mécanicien pourrait se présenter dans une cité des métiers, faire évaluer son savoir-faire réel par des professionnels et obtenir une certification officielle.
Une certification équivalente à un diplôme technique. C'est un outil massif pour réintégrer les travailleurs de l'informel dans une économie structurée.
Et surtout pour valoriser leur dignité professionnelle.
Attendez, en parlant de mécanique moderne et de compétences, il y a un sujet dans les sources qui m'a vraiment surpris.
L'intelligence artificielle ?
Oui. En général, quand on parle d'IA et de classe laborieuse, le discours est très anxiogène. On a l'impression que les robots vont remplacer tout le monde.
C'est la crainte globale, oui.
Mais le dossier de l'EI semble aborder ça avec un pragmatisme déconcertant. Et là, ça devient vraiment intéressant. Il parle carrément de créer une IA Madim Morocco.
C'est une vision très audacieuse.
Mais soyons réalistes. Comment on intègre de l'IA dans l'artisanat ou l'agriculture locale sans tomber dans le jargon technologique creux ?
C'est vrai que cela peut sembler utopique au premier abord. Mais l'approche détaillée dans les rencontres de Casablanca est très terre-à-terre.
C'est-à-dire ?
Le refus d'intégrer ces technologies est décrit, non pas comme une prudence, mais comme le risque ultime de créer une nouvelle fracture sociale.
L'argument étant que l'IA ne doit pas être réservée à une élite d'ingénieurs.
Absolument. Intégrer l'IA dans l'agriculture, par exemple, cela ne veut pas dire mettre des robots humanoïdes dans les champs.
Heureusement.
Cela signifie former les techniciens agricoles à utiliser des modèles de données simples, accessibles via des smartphones, pour optimiser l'irrigation ou prédire les maladies des cultures en fonction de la météo locale.
Donc des outils très concrets au service du terrain.
Et dans l'artisanat ou la logistique, il s'agit d'utiliser des algorithmes pour optimiser les chaînes d'approvisionnement ou accéder à de nouveaux marchés internationaux.
L'objectif de cette IA Made in Morocco est donc de l'adapter aux réalités locales pour qu'elle agisse comme un amplificateur de la productivité humaine.
Et non comme un outil d'exclusion ou de remplacement.
Donc on forme une génération ultra connectée, techniquement capable, avec un esprit critique aiguisé. Mais ça soulève un énorme paradoxe que Nizar Baraka lui-même pointe du doigt dans les débats autour de la charte du 11 janvier.
Oui, un nouveau contrat social.
Le dossier mentionne que cette charte de 2026 est le fruit d'une consultation massive auprès de 15 000 jeunes. C'est énorme.
C'est un échantillon très représentatif.
Mais on sait très bien comment ça se passe parfois. On consulte les jeunes, on met leurs idées dans une belle boîte à suggestions et la boîte finit directement à la broyeuse. Comment compte-t-on convaincre notre jeunesse que cette charte n'est pas juste un morceau de papier supplémentaire ?
C'est tout le cœur de l'équation politique soulevée lors de ces rencontres. L'analyse met en lumière une réflexion cruciale. Former des jeunes à l'esprit critique, les pousser à analyser le monde, sans leur donner en parallèle de véritables espaces de participation citoyenne, c'est générer inévitablement de la frustration.
Une jeunesse lucide mais impuissante devient une jeunesse défiante.
Exactement. Le rapport insiste lourdement sur le fait que la participation ne peut plus être simplement décorative.
Et quels sont les garde-fous pour éviter cette participation décorative ? Le magazine donne-t-il des exemples tangibles ?
Oui, l'AEI avance des solutions institutionnelles très concrètes. On y parle par exemple de la mise en place de budgets participatifs.
Où une partie des fonds publics locaux serait directement allouée à des projets choisis et votés par les jeunes eux-mêmes.
C'est ça. Le dossier évoque aussi le développement d'une véritable citoyenneté numérique.
L'open data, la transparence de l'action publique.
Pour que les jeunes puissent réellement évaluer l'impact des politiques menées. Il est également question de simplifier radicalement les procédures pour lancer des pétitions citoyennes.
L'objectif global rapporté par le magazine est d'instaurer une reddition des comptes palpable pour prouver par l'action que la voix d'un jeune peut modifier la réalité de son quartier.
C'est le fondement même de la confiance institutionnelle.
C'est une vision très axée sur l'horizon 2035. Mais le magazine LOGG iWeek, dans sa section Breaking News, nous ramène assez violemment à la réalité immédiate.
et je trouve que le contraste est saisissant.
C'est la confrontation avec le court terme.
Pendant qu'on débat de stratégie sur 10 ans, le magazine rapporte une flambée alarmante des prix alimentaires au début de ce mois de Ramadan 2026.
Une forte pression sur le pouvoir d'achat.
On parle de prix qui explosent sur les viandes rouges, la volaille, le poisson. Il y a un décalage énorme entre la vision de 2035 et le panier de courses d'aujourd'hui, non ?
Si l'on relie cela à la situation globale, il y a un décalage temporel, certes, mais sur le fond, ces deux réalités sont intrinsèquement liées.
Comment ça ?
Cette actualité brûlante sur l'inflation illustre avec une clarté redoutable le climat d'incertitude économique dans lequel évoluent de nombreuses familles marocaines. Cette pression immédiate sur le pouvoir d'achat rend d'autant plus vital le succès des réformes éducatives.
Parce que si le système d'éducation et de formation échoue aujourd'hui à doter la jeunesse des compétences nécessaires, cette angoisse du pouvoir d'achat deviendra permanente pour la prochaine génération.
Absolument. Le lien entre le prix de la viande sur le marché aujourd'hui et la qualité de la formation de demain, c'est la capacité d'une nation à garantir l'autonomie économique de ses citoyens.
C'est une excellente façon de boucler la boucle. Si je devais résumer la mission de notre exploration aujourd'hui, d'après ce que nous avons décortiqué de ce rapport de l'AEI, le Maroc a l'ambition et le budget. Les milliards sont sur la table.
L'effort financier est indiscutable.
Mais le grand défi de 2026, le véritable mur qui se dresse face à ce plan d'action, c'est l'exécution sur le terrain et le passage à une culture du résultat pour sauver une jeunesse en quête de sens.
C'est un résumé très juste de la situation. Mais pour clore cette analyse, il y a une réflexion qui s'impose pour notre audience.
Je vous écoute.
Nous avons beaucoup parlé de ce fameux plan d'action qui s'étend jusqu'en 2035 pour adapter les jeunes au marché du travail via des réformes institutionnelles. Mais à la vitesse fulgurante où l'intelligence artificielle redéfinit la notion même de travail et de compétences au niveau mondial, il est légitime de se demander si un système étatique peut encore planifier l'éducation sur 10 ans.
Sans que ces plans ne soient obsolètes avant même d'être appliqués.
Exactement. C'est une question qui mérite réflexion.
Une question vertigineuse pour terminer et qui remet en perspective la notion même de planification stratégique. Merci à notre audience de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de l'actu. C'était notre exploration approfondie des enjeux éducatifs marocains à travers les pages du magazine Elogy iWeek. Gardez l'esprit critique et à très bientôt pour une nouvelle analyse.